Merci beaucoup. Alors, on voit mal de prime abord en quoi Malebranche, l'auteur de La recherche de la vérité, des conversations chrétiennes, des entretiens sur la métaphysique et sur la religion, en quoi il peut contribuer à une réflexion sur la censure en littérature. Et pourtant, le chapitre 2 de La recherche de la vérité aborde, me semble-t-il, une question qui intéresse absolument la censure et plus généralement ce qu'on pourrait appeler les pouvoirs de la littérature, c'est la question de l'imitation. Alors, lorsque l'on parle de censure, en effet, le fait même de la censure postule une efficacité de l'art. Si l'on censure, c'est parce qu'on pense que l'art a une efficace, produit des effets sur le lecteur, et que ces effets peuvent être délétères. Effets délétères qu'elle entend éviter en supprimant leur cause, c'est-à-dire en supprimant les passages du texte ou le texte qui est à l'origine de ces effets. Donc vous le voyez, la censure, loin de considérer que la littérature, comme certains ont dit, ne prête pas à conséquences, considère au contraire que ce que la littérature est productrice d'effets, qu'elle a une efficacité pragmatique et que, par conséquent, l'art n'est pas un simple divertissement sans conséquence. Voilà. J'attire l'attention sur cette idée, parce qu'on peut considérer que la littérature n'a pas à être censurée parce qu'elle ne produit pas d'effets. Les censeurs sont ceux qui reconnaissent un pouvoir à la littérature. Ça me conduit à me diriger vers le terrain de la réception des œuvres, autrement dit, de réfléchir aux mécanismes à l'œuvre dans ses effets. Hein, dire que la littérature a des effets, c'est se demander comment elle produit ses effets. Et ici, j'entends aux mécanismes psychologiques à l'œuvre au cours de la lecture. C'est précisément sur ce terrain que nous conduit Malebranche avec une analyse qui, je répète, de prime abord, n'est pas bien identifiable comme étant une analyse portant sur la littérature et la censure. Pourtant, si on regarde de près, on va voir que ce passage, ce fameux chapitre 2 de La recherche de la vérité, traite assez longuement des écrits de Tertullien, de Sénèque, de Montaigne. Alors bien sûr, Malebranche, ce faisant, ne s'intéresse pas à la littérature au sens moderne du mot, c'est-à-dire, comme je cite la définition du petit Robert de la langue française de 2008, c'est-à-dire la littérature comme ensemble des œuvres écrites portant la marque de préoccupation esthétique, voilà la définition du Robert, mais Malebranche parle de ce que son temps entendait par ce mot, c'est-à-dire les litterae humaniores, c'est-à-dire les belles lettres humaines, hein, incluant la littérature grecque, latine, la philosophie aussi et l'histoire, par opposition aux litterae divinae et sacrae. Mais par sa réflexion sur les ouvrages de ses auteurs, et plus largement par sa réflexion sur l'imitation, Malebranche s'inscrit de manière indirecte et j'allais dire presque involontaire, dans un grand débat qui a structuré l'histoire de la philosophie et qui est absolument central dans notre affaire. C'est le débat qui a opposé, allez, on va dire pour faire vite, que Platon et Aristote ont fourni une sorte de matrice théorique à ce débat. Je m'explique. Le débat en question oppose les tenants des pouvoirs cathartiques de la poésie, donc on va dire Aristote d'un côté, à ceux qui se recommandent au contraire de Platon, du livre 10 de la République notamment, et qui affirment les effets mimétiques délétères de l'art. Alors en effet, on se souvient que au livre 10 de la République, Platon soutenait que la représentation d'émotions irrationnelles, de pensées immorales, fortifie la présence de celles-ci en nous. Il disait notamment, c'est à nos émotions personnelles qu'ira profiter la substance de ces émotions étrangères. Quand on a nourri l'apitoiement en ces dernières, il n'est pas aisé d'en contenir la force dans celles qui sont les nôtres. Fin de citation. Donc, même si les buts que Malebranche poursuit dans ce livre sur, sur l'imagination ne concernent pas directement ce débat, eh bien, vous allez le voir, j'espère vous convaincre que dans ses analyses de l'imitation, eh bien, Malebranche donne des arguments en faveur de la position platonicienne. Dans ce grand débat, si vous voulez, il y a une espèce de platonisme de Malebranche dans ses positions à l'égard de la littérature. Alors, commençons par des choses qui sont généralement ce qu'on retient de ce livre de la recherche de la vérité, c'est-à-dire l'insistance de Malebranche sur l'universalité du phénomène de l'imitation. Il confère au phénomène de l'imitation une étendue et une portée absolument considérables, hein, et j'en donne simplement un aperçu en prenant en compte les réponses que ce livre, je parle toujours du livre 2 de la recherche de la vérité, hein, du livre dans le livre, je ne le dirai plus à présent. Si je considère, si je pose la question à ce livre 2, si je pose trois questions, qui imite ? Qui est imité ? Et qu'est-ce qui est imité ? Vous allez voir l'extraordinaire extension de l'imitation selon Malebranche. Alors, qui imite ? Eh bien, non seulement l'enfant, mais encore le fœtus, le disciple, le serviteur, le courtisan, tous les individus finalement qui se trouvent dans une situation de dépendance, de déférence ou d'admiration, mais aussi, dans certaines circonstances qu'il faudra préciser bien sûr, des individus qui ne sont ni mineurs, ni subalternes, ni ignorants. Donc vous voyez, à peu près tout le monde imite. Qui est imité ? Eh bien, ce sont les parents, les maîtres, les grands, les princes, mais aussi, toujours dans des conditions qui devront être précisées, des personnes de même condition, voire de conditions inférieures. Et enfin, qu'est-ce qui est imité ? Eh bien, on imite tout. On imite les mimiques, on imite les attitudes, on imite les manières de penser, de s'habiller, les comportements, les actions, les sentiments, les passions, et aussi, évidemment, les croyances et les jugements. Alors cette imitation qui, selon Malebranche, commence dès la vie intra-utérine, hein, c'est-à-dire dans une période où l'âme de l'enfant et celle de sa mère habitent deux corps étroitement unis, hein, qui font que l'enfant a, comme dit Malebranche, toutes les mêmes pensées que sa mère, hein, c'est-à-dire toutes ses sensations et toutes ses émotions. Alors bien sûr, dans le cas du fœtus, l'imitation dont il est question, vous voyez, ressemble plus à une sorte d'écho, hein, d'écho dans le corps de l'enfant, de ce qui se passe dans le corps de la mère, si bien que c'est une imitation écho, bien plus qu'une imitation emprunt. Alors, ce sont les passages les plus surprenants de la recherche de la vérité. Je ne veux pas m'étarder là-dessus, mais je ne résiste pas à vous citer des prétendues attestations de cette imitation du fœtus qui sont tout à fait abracadabrantes, hein, pour nous, pour le lecteur d'aujourd'hui. Hein, par exemple, le cas de l'enfant dont les bras et les jambes à la naissance étaient brisés au même endroit où avaient été brisés les membres d'un criminel dont sa mère, enceinte, avait assisté à l'exécution. Ou bien encore, le cas du nouveau-né qui ressemblait à Saint Pie. Pourquoi ? Parce que sa mère enceinte avait regardé un tableau représentant Saint Pie. Alors ça donne le passage suivant. Il avait l'enfant, hein, à la naissance. Il avait le visage d'un vieillard, autant qu'en est capable un enfant qui n'a point de barbe. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine, ses yeux tournés vers le ciel. Il avait très peu de front, parce que l'image de ce saint étant élevée vers la voûte de l'église en regardant le ciel, n'avait aussi presque point de front. Il avait une espèce de mitre renversée sur ses épaules, l'enfant, hein, l'enfant, avec plusieurs marques rondes aux endroits où les mitres sont couvertes de pierreries. Donc vous voyez l'imitation ici. Bon, enfin, c'est hallucinant et en général, on ne retient que ça de Malebranche, de ce passage. Mais précisément, je pense que derrière ces fantaisies, il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Alors, donc, voilà pour l'imitation écho, sur laquelle je passe très vite, mais il y a une autre forme d'imitation, plus classique, qui est celle du mimétisme. Alors, c'est par exemple, je cite, toujours Malebranche, « Un jeune garçon marche, parle, fait les mêmes gestes que son père. Une fille, de même, s'habille comme sa mère, marche comme elle, parle comme elle. Si la mère grazeille, la fille grazeille. Si la mère a quelques tours de tête irréguliers, la fille le prend. Enfin, les enfants imitent leurs parents en toutes choses, jusque dans leurs défauts et dans leurs grimaces, aussi bien que dans leurs erreurs et dans leurs vices. Alors, à l'âge adulte, l'imitation se manifeste encore dans l'emprunt, la contrefaçon qui modèle les comportements et les goûts. C'est par exemple ce passage à propos des courtisans. Si Alexandre penche la tête, ses courtisans penchent la tête. Si Denis le tyran s'applique à la géométrie devient aussitôt à la mode. Fin de citation. Alors, Malebranche, après avoir insisté sur cette extraordinaire emprise de l'imitation, c'est-à-dire nous sommes des êtres mimétiques hein, dans toutes les circonstances de notre vie et à tous les âges, développe toute une théorie physiologique de l'imitation. C'est-à-dire que dans le cadre, vous savez que Malebranche est on le classe du côté de ce qu'on appelle des grands cartésiens, c'est-à-dire les héritiers de Descartes, qui reprennent le projet cartésien de faire une physiologie des passions. Et Malebranche fait quelque chose ici qui ressemble beaucoup à cette physiologie cartésienne. En tout cas, l'idée que je veux retenir simplement, c'est que les phénomènes que Malebranche désigne par le mot d'imitation sont tellement nombreux, tellement variés, tellement dissemblables entre eux, qu'il peut sembler qu'on se trouve face à une catégorie vague, composite et par là même très peu pertinente. Pourtant, toutes ces occurrences ont précisément une racine physiologique commune qui confère une véritable unité à la catégorie d'imitation. Qu'est-ce que c'est en effet physiologiquement parlant l'imitation ? Eh bien, c'est une contagion imaginative. Autrement dit, l'imitation relève de l'imagination, ce qui explique évidemment que les développements qui sont consacrés à l'imitation soient dans le livre consacré à l'imitation. Et le processus de formation des images est mis par Malebranche en regard du processus de formation de la sensation. C'est-à-dire que dans la sensation, un objet extérieur frappe l'organe sensoriel, exerce une traction sur le nerf qui relie l'organe, l'œil par exemple, au tissu cérébral et qui occasionne ainsi une disposition particulière de ce que le XVIIe siècle appelle les esprits animaux, hein, c'est-à-dire les petites particules de matière qui sont agitées dans le cerveau, agitation particulière qui fait percevoir à l'âme l'objet dans ses qualia sensibles. Hein. Bien, alors, de la même façon, il peut, la sensation, je viens d'expliquer très très rapidement ce que ça signifie. Qu'est-ce qui se passe quand nous imaginons ? Eh bien, c'est aussi un mouvement intracérébral des esprits animaux qui représente à l'âme l'image de l'objet, hein, mais sans que le tourbillon des esprits animaux ait été causé par la présence physique actuelle de l'objet. En l'occurrence, ce mouvement peut avoir été occasionné, par exemple, par une volonté, lorsque je veux me souvenir de quelque chose, eh bien, j'active volontairement le mouvement des esprits qui va me rappeler, je ne sais pas, la manière dont la salle où nous étions hier était disposée. Ou bien, elle peut être, ce mouvement peut être passif lorsque aucune action de l'âme n'est à son origine et où elle tient à des causes exclusivement physiques. Vous avez des images qui vous traversent l'esprit, bien que vous n'ayez pas voulu les solliciter. Donc, de même que le graveur a besoin pour réaliser ses images d'une plaque de cuivre et d'un burin, eh bien, l'imagination suppose un élément passif, le tissu cérébral, hein, ce que Malebranche appelle les fibres du cerveau, et un élément actif qui sont ces minuscules particules de matière que sont les esprits animaux et qui viennent s'inscrire, s'imprimer sur le tissu cérébral. Alors, l'imagination, il faut le dire, chez Malebranche, a une fonction vitale. Hein, parce que c'est l'imagination, entendue dans ce sens, vous voyez, très large, qui rend possible la mémoire et l'habitude, très important, hein, toutes deux indispensables à la survie du corps. Si bien que l'imagination est une très bonne chose. Simplement, pour Malebranche, le péché originel, en donnant au corps une autorité sur l'âme, a transformé ce qui devait être une servante en un tyran. C'est-à-dire que l'imagination, qui était un processus physiologique à finalité vitale, est devenu un processus qui s'est emballé tout seul et qui est responsable de toutes sortes de défauts. Contrairement à Adam, l'homme, d'après la chute, ne peut pas interrompre les effets de son imagination, ce qui fait que l'âme se trouve plongée dans un théâtre d'ombre anarchique qui la sujettise, qui la détourne de la raison, hein, qui rend de l'âme, comme dit Malebranche, charnelle, et qui rend de l'esprit, comme il le dit aussi, matériel. Si vous voulez, le péché a donné à l'imagination une puissance prédominante et par la même maléfique qui par la même poursuit le péché. Bien, l'homme n'est pas seulement sous l'emprise de sa propre imagination, mais il est aussi, et on s'approche de notre affaire, sous la domination de l'imagination des autres. L'imitation ou contagion imaginative, dont je vais maintenant parler, la contagion des imaginations, réalise donc une sorte d'extension du domaine de l'aliénation. Il y a déjà aliénation par le phénomène de l'imagination, mais lorsque c'est l'imagination d'autrui qui prend la main sur moi-même, eh bien, il y a une sorte d'extension du domaine de l'aliénation. Je dis bien contagion imaginative pour dire que cette propagation des imaginations, comme dans la maladie, se fait de corps à corps, sans que l'âme ait à intervenir. La théorie mimétique de Malebranche, c'est un phénomène purement physique, et plus précisément mécanique, qui se produit entre imaginations. Donc le passage à l'intersubjectivité, ici, ne fait pas quitter la sphère de l'analyse physiologique. Comme le dit Malebranche, tout ceci se fait par machine. Alors, cette production, cette contagion d'imagination entre individus, hein, ça signifie que l'imagination de l'un agit sur l'imagination de l'autre, sans que pour autant l'imagination du premier soit volontaire. Hein. Elle est toujours aussi passive que celle du second. Tout est affaire de figure, de densité, de mouvement, de pression, de contre-pression. Simplement, il y a une imagination qui active, qui domine l'autre et qui va s'imposer à l'autre. Et qu'est-ce qui fait que l'une est active et l'autre moins active, passive ? Eh bien, c'est une sorte de différentiel de forces respectives. Alors, il existe ce que Malebranche appelle des imaginations fortes. Il y a des imaginations fortes, c'est-à-dire des complexions somatiques particulières. Je cite, une constitution du cerveau qui le rend capable de vestiges et de traces extrêmement profondes, c'est toujours les traces dans la matière cérébrale, hein, et qui remplissent tellement la capacité de l'âme qu'elle l'empêche d'apporter quelque attention à d'autres choses que celles que ces images représentent. Donc vous voyez ce que Malebranche entend par imagination forte. Alors j'insiste parce que Sénèque, ça sera une imagination forte, justement. L'imagination forte, ça n'est pas un être inspiré qui serait doté d'une sorte de fureur poétique ou qui serait gratifié d'un don des astres, hein, comme le pensait Dürer. Hein. Non, ce sont des individus qui sont dotés d'une certaine constitution physiologique. Finalement, les différences individuelles ne sont in fine que des différences corporelles chez Malebranche. Alors, bien entendu, je passe là-dessus, mais on peut comprendre, il y a des terrains physiologiques plus faibles que d'autres. Par exemple, les femmes, les enfants sont particulièrement sensibles aux imaginations fortes parce que physiologiquement, les fibres de leur cerveau sont plus malléables, plus souples, donc plus imprégnables, hein, en quelque sorte. Alors, bien entendu, il y a ces conditions physiologiques auxquelles s'ajoutent des conditions circonstancielles. C'est-à-dire que la contagion des imaginations est facilitée dans toutes les circonstances où il existe entre les individus concernés par cette contagion une relation asymétrique. Hein, par exemple, l'enfant et les parents, le disciple et le maître, l'inférieur et le supérieur. Hein, chaque fois, évidemment, ça renforce cette contagion de la part des imaginations fortes. Alors, les ressorts qui nous portent naturellement à l'imitation, comme dit Malebranche, ces ressorts sont, je le répète, sont des ressorts physiologiques. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette analyse physiologique parce que ça nous entraînerait très loin, éventuellement je pourrais y revenir. Hein, mais ce que montre Malebranche, c'est qu'il y a une forme, je répète, de contagion émotionnelle. Malebranche voulant par là souligner le caractère spontané, involontaire, totalement irréfléchi, de l'imitation. Alors évidemment, vous comprenez tout ce qui se joue là derrière, je ne le répète pas, mais qui est important pour notre affaire de la censure. Ce que dit Malebranche, c'est que les effets que peuvent produire la littérature sont des effets qui sont infraconscients et qui sont d'autant plus forts qu'ils sont infraconscients. Alors, cette contagion, c'est une forme de compassion des corps. Hein. Il y a une compassion d'un corps à l'autre. Je pense que pour comprendre ce que Malebranche veut dire, il faut le rapprocher d'une découverte beaucoup plus récente et je pense que Malebranche a anticipé de façon prodigieuse, c'est la découverte des neurones miroirs. Parce que c'est de ça dont parle Malebranche, sans dire le mot, bien entendu. Hein. Alors, je vous rappelle que la découverte des neurones miroirs, elle a été faite au début des années 90 par les professeurs Vittorio Gallese et Giacomo Rizzolatti de l'Université de Parme. Les premiers travaux sur les singes macaques avaient permis de mettre en évidence l'existence d'une espèce particulière de neurones qui s'active dans le cerveau du singe qui regarde un de ses congénères exécuter une action, comme s'active chez le singe qui agit, les neurones commandant l'action. Hein, c'est cette idée de correspondance tout à fait extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui rapproche l'histoire des neurones miroirs de Malebranche ? Eh bien, le fait que l'imitation soit involontaire dans les deux cas, largement inconsciente, hein, et qu'elle soit évidemment susceptible de rendre compte d'un très grand nombre de phénomènes différents. Hein. Ce qui est tendu aux humains, hein, si je passe des macaques aux hommes, signifie une sorte de confirmation neurobiologique à l'idée malebranchiste d'une compassion directe de corps à corps. Alors, pour Malebranche d'ailleurs, comme pour la neurobiologie contemporaine, ce dispositif naturel, que l'un appelle contagion imaginative et l'autre neurone miroir, est à l'origine de l'empathie. Et c'est très important parce que Malebranche considère que le mécanisme qu'il est en train d'écrire a été mis en place par la Providence justement pour faire en sorte que les hommes se prennent mutuellement en considération. Si vous voulez, le mécanisme est un mécanisme destiné à favoriser la vie des sociétés, à favoriser le minimum de ressemblance vitale qui permet à une société de fonctionner. Si l'empathie n'existait pas, eh bien, chaque individu serait livré à la poursuite purement individuelle et égoïste de ses buts. L'empathie nous fait, en quelque sorte, communiquer entre nous. Elle pousse à l'entraide, à la solidarité. Bref, c'est un dispositif admirable, mis en place par la Providence divine, mais perverti par le péché, par les suites du péché. Hein, donc, l'imitation est vitale pour l'individu, mais aussi pour les sociétés, vous le voyez. Mais depuis que l'imagination est devenue dominante et tyrannique, eh bien, ces effets sont devenus délétères. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, je peux en venir au maléfice de la littérature. Les chapitres que Malebranche consacre à Tertullien, à Sénèque, à Montaigne, traitent précisément des pouvoirs maléfiques de la littérature. Ici, vous le voyez, ce ne sont pas les parents, les maîtres, les princes que nous imitons, mais ce sont certains auteurs dont nous adoptons les pensées par le mécanisme de la contagion affective, imaginative. Même si l'adoption de la pensée d'un autre paraît très différente des comportements mimétiques que je viens de décrire, eh bien, il ne faut pas perdre de vue que c'est toujours le même processus à l'œuvre. C'est toujours ce processus physiologique fondamental et que les protagonistes de ce processus sont toujours les mêmes, c'est-à-dire une imagination forte, un dispositif physiologique et un esprit récepteur plus ou moins malléable. Donc, dans le cas de la littérature, comme dans le cas de l'imitation du fœtus, vous voyez, le mécanisme reste le même, même si, évidemment, la partie de la description de Malebranche qui nous intéresse, c'est celle consacrée à la littérature. Alors, à la différence de l'imitation, la forme de persuasion dont parle ici Malebranche n'a rien à voir avec une conviction qui serait emportée par une argumentation rationnelle. C'est-à-dire, on n'est pas dans la rhétorique. La persuasion imaginative, elle court-circuite au contraire l'usage de la raison et elle se substitue à la raison. C'est pour Malebranche, grand rationaliste, ce qui fait l'immense danger de l'imagination. À la différence donc, de l'imitation par contact direct, la mère à l'enfant, le père, le serviteur au maître, etc., on est, dans le cas de la littérature, en contact avec des textes. Les textes, Malebranche dit que ce ne sont que de faibles peintures ou des paroles, citation, mortes, de simples ombres de l'imagination de leur auteur. Contrairement à l'orateur qui trouve dans l'actio, c'est-à-dire dans la prononciation du discours, l'occasion d'un contact direct avec ceux auxquels il s'adresse, l'imagination de l'auteur n'agit que par l'intermédiaire du texte écrit. Certes, mais tout affaibli qu'il soit, au regard du discours prononcé in presentia, le texte peut néanmoins être suffisamment marqué par le feu, par la véhémence, par l'emportement de son auteur, pour produire ces effets contagieux dont il est ici question. Malebranche parle des visionnaires d'imagination, excessifs, enthousiastes, passionnés, qui produisent des discours expressifs, ardents, dont la force ne tient pas au contenu, mais à la forme, à la manière d'écrire. Ça tient, comme le dit Malebranche, à leur tour de parole, à je cite encore, à l'usage de figures qui flattent les sens et excitent les passions. De celles-ci, de ces figures, Malebranche écrit, je cite encore, qu'elles entrent, elles pénètrent, elles dominent dans l'âme d'une façon impérieuse, si impérieuse, qu'elles se font obéir sans se faire entendre. Elles se font obéir sans se faire entendre. C'est extraordinaire. On se rend à leurs ordres sans les savoir. On se rend à leurs ordres sans les savoir. Bref, le rythme des phrases de ces auteurs que commente ici Malebranche, hypnotise. Les allitérations subjuguent, les images et les métaphores éblouissent et enflamment. La force des paroles est plus grande que la force des raisons. La beauté l'emporte sur l'évidence. Sénèque, comme dit Malebranche, convainc parce qu'il émeut et parce qu'il plaît, alors que normalement la conviction doit être rationnelle. Alors on retrouve là la condamnation de la rhétorique par la modernité philosophique du XVIIe siècle. Ça, Malebranche s'inscrit dans un courant extrêmement critique à l'égard de la rhétorique, qui est déjà chez Descartes, chez Locke, chez tous les auteurs du temps. Mais l'originalité de Malebranche tient au fait qu'il considère précisément que ce qu'il appelle ces tours de parole, par lesquels l'imagination du lecteur est contaminée, n'est pas le fait d'un art, mais est le fait d'un tempérament. L'éloquence qu'il condamne ne provient pas de l'apprentissage des techniques de la rhétorique, mais d'une sorte de pathologie naturelle de l'imagination. Il s'ensuit que cette éloquence est toujours inévitablement maligne. On peut dire que la rhétorique peut être mise au service du bien comme du mal, mais à partir du moment où on dit que cette espèce d'éloquence naturelle procède d'une excroissance de l'imagination au détriment de la raison, eh bien les effets de cette imagination seront nécessairement déraisonnables. Les imaginations fortes sont toujours, je cite encore Malebranche, ennemies de la raison et du bon sens. Malebranche ne saurait donc approuver les finalités de la littérature que résume la formule empruntée à l'orateur de Cicéron, movere, docere, placere, et adoptée par les théoriciens classiques de la littérature et de la peinture. On sait que pour eux, la poésie devait éduquer et pouvait éduquer, un axiome incontestable, selon l'art poétique de Boileau, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Cette fin de moralisatrice de la littérature, qui est particulièrement visible dans les écrits des théoriciens de la dramaturgie classique, par exemple, ce n'est pas du tout le cas de Malebranche. Malebranche, ici, considère au contraire que émouvoir interdit l'instruire, que l'émouvoir introduit, le mot erré introduit, interdit le docere. Il a une position donc tout à fait originale. Voilà ce qu'il dit très exactement. Le plaire détourne, pour montrer que le plaire détourne de la raison, parce que les hommes aiment beaucoup mieux se laisser toucher par le plaisir sensible de l'air et de l'expression, sous-entendu que par les raisons, eh bien le plaisir, toujours Malebranche, engage insensiblement dans les sentiments de l'auteur. Je conclus donc, par son analyse de l'imitation, Malebranche s'inscrit donc bien dans une lignée théorique qui va de Platon à, pour prendre un nom d'un de nos contemporains, à Richard Posner. Je pense ici à son article Against Ethical Criticism. Une lignée théorique donc qui va de Platon à Posner, en passant par le Rousseau de la lettre à D'Alembert sur les spectacles, par exemple. En transposant ses analyses de la contagion imaginative à l'expérience de la littérature, on doit en effet conclure que de la fréquentation des œuvres de la littérature, on a moins à espérer la purgation de nos passions qu'à craindre une forme d'aliénation particulièrement sournoise. Parce qu'il sollicite notre imagination, l'acte de lecture, bien que Malebranche évidemment n'utilise pas cette expression, développe en nous une puissance trompeuse au détriment de la raison et nous soumet à des pensées qui ne sont pas les nôtres. La lecture est une sorte de devenir sujet des idées de l'auteur que Georges Poulet exprimait dans la formule que je cite à présent. Tout ce que je pense fait partie de mon monde mental. Dans la lecture, je développe les idées qui manifestement appartiennent à un autre monde mental et qui font l'objet de mes pensées, tout juste comme si je n'existais pas. Ceci est inconcevable et le semble d'autant plus que, dans la mesure où toute idée doit avoir un sujet qui la pense, cette pensée m'est étrangère, tout en se développant en moi. Fin de la citation de Poulet, qui était extraite d'un article en anglais, Phenomenology of Reading. La contagion imaginative, selon Malebranche, explore précisément cette forme de dépossession. Voilà ce qu'écrit Malebranche. Quand les hommes nous parlent, ils gravent dans notre cerveau des traces pareilles à celles qu'ils ont. Lorsqu'ils en ont de profondes, c'est le cas des imaginations fortes, ils nous parlent d'une manière qui nous engrave de profondes, car ils ne peuvent parler sans qu'ils nous rendent en quelque façon semblables à eux. Fin de citation. Je pense que cette phrase pourrait être rapprochée de ce passage de Claudel, qui, se plaçant lui aussi du point de vue de l'imagination contaminatrice, fait dire dans l'échange à l'actrice Leshy Elbernon, je cite, « Les spectateurs, à propos des spectateurs, ils m'écoutent et ils pensent ce que je dis. Ils me regardent et j'entre dans leur âme comme dans une maison vide. » Fin de citation. Je vous remercie.